Bienvenue sur Esprit Occitanie, vous écoutez le premier épisode de Parlons Patrimoine, notre nouvelle série consacrée à la gestion de patrimoine, et pour nous aussi, c'est une première absolue.
Oui Philippe, on est vraiment ravis de lancer cette aventure, je m'appelle Valérie, et Philippe est à mes côtés. Et nous sommes tous les deux conseillers en gestion de patrimoine, associés au sein du cabinet Linard Charbonnel à Toulouse.
Dans Parlons Patrimoine, on va parler argent, impôts, retraite, transmission, mais toujours de façon simple, concrète et accessible. Pas de jargon, pas de langue de bois. Des informations utiles que vous pouvez écouter où et quand vous le souhaitez.
Et pour ce premier épisode, on commence par les fondamentaux. Qui sommes-nous? Quel est notre métier? Et on s'attaque à un sujet concret qui concerne tout le monde, la déclaration d'impôt sur le revenu. On est en plus au mois de mai, c'est tout à fait adapté. Avec les points de vigilance essentiels à connaître, bonne écoute.
Alors, qui sommes-nous? Pour ceux qui nous découvrent dans ce premier épisode, commençons par le commencement. Valérie, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivée là, ce parcours un peu particulier, qui est le vôtre?
Alors je dirais même qui est le nôtre, Philippe, puisque ensemble nous sommes associés depuis une dizaine d'années et nous avons fait le choix de rejoindre en 2025 le cabinet Linard Charbonnel. On a d'abord exercé de façon indépendante, 10 ans à construire notre clientèle et à affiner notre approche, à comprendre ce métier dans toute sa complexité et sa richesse. Et vous, Philippe, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours avant notre association, puisque vous avez souvent l'habitude de dire que vous avez commencé à travailler au siècle dernier.
Effectivement, je suis rentré dans la vie active dès 1995 dans différentes banques, à différents postes. Et donc, nous avons créé notre structure en 2014. Puis, nous avons rejoint le cabinet d'Hélène Linard et de Ludovic Charbonnel en 2025. Un cabinet avec une structure sérieuse, des valeurs qui nous correspondaient et une implantation régionale solide, puisque nous sommes basés sur Toulouse et aussi sur Bordeaux, grâce aussi à l'appui d'un groupe qui s'appelle le groupe Premium, avec lequel on a une envergure nationale.
Oui, et puis nous avons aussi un associé qui est Vincent Cunil à Bordeaux, ce qui fait 2 agences, une à Toulouse et une à Bordeaux, et du coup un vrai ancrage dans le Grand Sud-Ouest. Ce qui fait aussi notre force, c'est notre association à tous les 5, parce qu'on est vraiment complémentaires et tous avec une expertise différente.
Effectivement, ce métier, on l'avait moins choisi. Et c'est précisément parce qu'on croit à l'utilité de l'information patrimoniale pour tous qu'on est heureux de partager avec vous, dans Parlons Patrimoine, de notre expérience.
Exactement. Et c'est dans l'esprit de cette émission, être utile, concret, pédagogique. Pas de jargon inutile, pas de discours commercial, juste des informations qui vous aident à mieux gérer votre patrimoine. Philippe, si vous deviez expliquer notre métier à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, à quelqu'un qui nous écoute pour la première fois, vous diriez quoi?
Vous voyez, je lui dirais, imaginez un médecin généraliste. Il vous soigne, pas seulement le bras, la jambe, il regarde votre santé dans la globalité. Eh bien nous, c'est pareil, mais pour votre argent et votre patrimoine. En effet, notre première relation, c'est de faire un bilan complet de votre situation. Et on construit avec vous une stratégie adaptée à vos objectifs de vie.
C'est une belle image. Et on travaille à l'intersection de plusieurs disciplines. C'est ça qui rend ce métier si varié et si intéressant.
Absolument. On touche à plusieurs domaines. À la fiscalité, au droit, droit civil, droit des successions, droit patrimonial, à la finance bien sûr, mais aussi à l'immobilier, à la retraite, à la prévoyance. C'est un métier qui demande une formation très solide et une mise à jour permanente dans notre connaissance parce que les lois évoluent constamment.
Et concrètement, quand quelqu'un vient nous consulter pour la première fois, comment ça se passe?
Eh bien, on va démarrer par un bilan patrimonial. Ça va nous prendre à peu près 1 heure. On prend le temps d'écouter et on va demander à notre client plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il possède des biens immobiliers? Quels sont ses revenus? Quelles sont les charges, les dettes? Quelle est sa situation patrimoniale? Et surtout, quels sont ses projets, ses objectifs à court, moyen et long terme? Ça peut être acheter un bien pour sa résidence principale, pour sa résidence secondaire, que ce soit la mer ou la montagne, ou bien préparer sa retraite, transmettre aux enfants, réduire les impôts. Voilà tout un panel qu'on peut apporter à nos clients.
Mais les objectifs, vous avez raison, c'est bien ça le vrai point de départ. On est là pour trouver la meilleure solution à leur situation et surtout la personnaliser. en fonction de la durée, c'est-à-dire l'horizon d'investissement, en fonction des objectifs, bien évidemment, et de son affinité ou son appétence au risque.
Oui, le métier de gestionnaire de patrimoine est fondamental dans l'écoute de nos clients, qui différencie parfois, malheureusement, des conseillers de clientèle bancaire, par exemple. Nous sommes indépendants, notre objectif, c'est de répondre au mieux aux objectifs de nos clients. Mais les objectifs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les objectifs de demain. Ils peuvent varier en fonction des accidents de la vie, en fonction de différents objectifs qui vont évoluer tout au long de la vie de nos clients. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous nous devons de rencontrer nos clients à minima une fois par an.
La question qu'on nous pose le plus souvent, c'est comment réduire mes impôts ? Bon, ça, on va en parler un peu plus tard. Mais aussi, comment préparer ma retraite ? J'ai de l'épargne qui dort sur mon livret A, qu'est-ce que je peux en faire ? Je viens de toucher de l'argent suite à une donation ? Ou comment protéger mon conjoint ? Je veux transmettre à mes enfants, comment m'y prendre ? Voilà vraiment toutes les questions. Et c'est juste un petit panel des questions qu'on peut avoir, mais vraiment l'ensemble des domaines sur lesquels on peut intervenir.
D'ailleurs, pour rebondir, Valérie, par rapport à ce que vous venez de dire, parfois, les clients arrivent avec des certitudes et repartent avec des interrogations. Et on a ouvert des champs qu'ils ne savaient pas possibles. Et ce sont effectivement souvent des questions universelles qui concernent tout le monde. Et souvent, les gens sont surpris de voir que des solutions existent, des solutions légales, bien sûr, hein, simples, efficaces, auxquelles ils n'avaient pas pensé.
Voilà pourquoi cette émission, c'est important pour nous. On veut démystifier la gestion de patrimoine, la rendre accessible, parce que ce n'est pas réservé qu'aux riches. C'est utile pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu et le niveau de patrimoine.
Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir 1 million d'euros sur son compte chèque pour venir nous voir. En fonction de la stratégie, en fonction de son développement, on peut répondre à des attentes à l'ensemble de nos clients.
Et on va commencer par marquer une pause musicale et on choisit un titre qui parle d'indépendance et de liberté, deux valeurs qui nous sont chères au cabinet.
Effectivement, un titre écrit par Florent Pagny, je crois, alors qu'il y avait quelques soucis avec le fisc. On se retrouve dans quelques instants.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur. Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bévière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous vous pouvez bien même tout garder. J'emporterai rien en enfer, quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.
Eh bien, vous savez maintenant pourquoi on a choisi ce titre. Parce que justement, après l'avoir écouté, on va devoir remplir notre déclaration d'impôt. Et pour cela, on va faire appel à Valérie, qui est au sein du cabinet, notre spécialiste dans tout ce qui est juridique et fiscal. C'est à toi de nous guider dans cette rubrique. Par où on commence ?
Par le commencement. Avant même de parler de cases à remplir, je veux qu'on comprenne comment l'impôt sur le revenu est calculé en France. On a souvent en tête qu'on parle de tranches, de quotient, mais tout n'est pas toujours très clair. Donc, parce que beaucoup de gens quand même payent l'impôt, c'est important de savoir comment on le paye. Et si on veut après, plus tard, pouvoir agir sur l'impôt, il faut bien le comprendre.
C'est une excellente idée. Alors concrètement, comment cela fonctionne ?
Alors, le calcul de l'impôt repose sur deux notions, on l'a dit, le quotient et la tranche marginale d'imposition, ce qu'on appelle la TMI. Et alors en plus, cette TMI, il faut savoir que depuis 2 ans maintenant, le Centre des impôts est un peu plus transparent, puisque vous pouvez la retrouver sur la dernière page de votre avis d'imposition. Vous avez votre taux moyen, qui est souvent le plus connu, et la TMI qui est indiquée.
Et le nombre de parts, ça dépend de quoi ?
De votre situation familiale. Une personne seule, une part, un couple marié ou pacsé, deux parts. Chaque enfant à charge ajoute une demi-part, jusqu'au troisième enfant qui lui ajoute une part supplémentaire. Donc pour donner un exemple, une famille de personnes mariées avec 2 enfants, on aura 3 parts. Et ça, c'est cette notion de part qui va déterminer le quotient.
Et ensuite, comment on calcule l'impôt sur ce quotient, Valérie ?
On applique le barème progressif par tranche. On a plusieurs tranches, 0%, 11%, 30%, 41%, et la plus haute des tranches est à 45%. Attention, c'est une erreur très répandue de penser que le barème s'applique à la dernière tranche. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tranche à 30% que tous vos revenus sont taxés à 30%. Seule la partie qui dépasse le seuil est taxée au taux supérieur.
Ça, c'est effectivement fondamental. Beaucoup de gens ont peur de gagner un peu plus parce qu'ils pensent que ça va tout faire basculer dans une tranche supérieure.
Exactement. Et c'est une idée fausse. Votre TMI, tranche marginale d'imposition, c'est le taux qui s'applique uniquement au dernier euro que vous gagnez, pas à l'ensemble de vos revenus. Une fois qu'on a calculé l'impôt sur le quotient, on le multiplie par le nombre de parts. Et on obtient l'impôt brut du foyer. C'est pour ça que comprendre sa TMI est si importante. C'est elle qui détermine l'efficacité réelle de chaque effort d'optimisation fiscale.
Justement Valérie, parlons des points de vigilance sur la déclaration elle-même. Quel est le premier réflexe ?
Alors déjà, ne jamais faire confiance aveuglément au pré-rempli. L'administration fiscale remplit votre déclaration à partir des informations transmises par votre employeur, votre banque, vos organismes sociaux, mais ces données peuvent être incomplètes, décalées ou erronées. Vous restez entièrement responsable de votre déclaration, donc vérifiez bien chaque ligne. Il y a de moins en moins d'erreurs, mais quand même, c'est important. Une fois que vous validez, eh bien, c'est définitif.
Et justement, quels sont les revenus qu'on oublie le plus souvent ?
Alors, nous, dans ce qu'on constate, les revenus les plus oubliés sont les revenus locatifs, les revenus des locations meublées de courte durée, par exemple Airbnb, les dividendes que nos clients peuvent percevoir, les plus-values sur les valeurs mobilières. Depuis quelques années, les plateformes numériques transmettent automatiquement à l'administration les sommes perçues. Donc, pas question de passer entre les mailles du filet, ça peut être risqué. Deuxième point de vigilance très important, et c'est là que beaucoup de gens perdent de l'argent, c'est les charges déductibles. Philippe, vous pouvez nous citer quelques exemples parlants ?
Bien sûr. On a par exemple les pensions alimentaires versées, les dons aux associations. Sachez qu'un don de 100 euros peut valoir 66 euros de réduction d'impôt. les frais de garde d'enfants, l'emploi à domicile, des sommes qui peuvent être très significatives et que l'on oublie, même pas de déclarer, par oubli pur et simple.
Exactement. Et je veux insister sur un point technique que beaucoup ignorent, la case pour mutualiser les plafonds d'épargne retraite entre conjoints. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez la possibilité de mettre en commun vos plafonds respectifs. Vous savez, les plafonds, c'est ce qu'on retrouve sur la dernière page de votre avis d'imposition. Décidément, on trouve beaucoup d'informations qu'on ne lit pas sur cette dernière page. Et ces plafonds, ils nous permettent d'utiliser cette épargne retraite pour préparer notre retraite, mais on a des plafonds maximales à utiliser tous les ans. Eh bien, quand on en a trop utilisé ou qu'on a besoin de préparer plus sa retraite que son conjoint, on peut cocher la case 6QR sur sa déclaration qui nous permet de mutualiser et de prendre une partie du plafond du conjoint. Et c'est un levier qui est très puissant pour les couples où les revenus sont déséquilibrés.
Effectivement, c'est exactement ce type de choses que l'on ne trouve pas dans des notices fiscales.
Et justement, parlons du PER, plan d'épargne retraite, puisqu'on évoquait cette case 6QR. Philippe, on a parlé tout à l'heure dans notre présentation, mais je peux entrer dans le détail technique de la déclaration parce qu'il y a un piège classique.
Et c'est lequel, Valérie ?
Les versements sur un PER sont en principe pré-remplis par votre établissement financier. Ils apparaissent déjà dans votre déclaration. On rentre un peu dans le technique, là. On risque de perdre quelques auditeurs. Mais c'est important. Alors, soyez vigilants. Nous, tous les ans, on a des clients qui font cette erreur. Donc, attention. Ce n'est pas parce que le montant est pré-rempli sur le fait que vous ayez versé sur un PER ou de l'épargne retraite. Il est indiqué sur une case grisée, mais il faut penser à le reporter et à le réinscrire en case 6NS ou 6TN pour les conjoints. Si c'est par inadvertance, ils se retrouvent dans une autre case, ou s'ils ne sont pas du tout remplis, ben vous perdez votre déduction. Et c'est quand même dommage, quand on sait à quel point le PER peut être efficace pour optimiser sa fiscalité.
Juste pour compléter ce que vient de dire Valérie, sachez que si vous avez fait un oubli, on peut toujours, dans l'année, faire un correctif au niveau du service des impôts qui permettra de faire la réduction de l'impôt.
Oui, mais attention Philippe, il faut le faire avant le 31 décembre. Sinon après, c'est trop tard.
Et comment on connaît le plafond de déductibilité du PER ?
Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la dernière page de notre avis d'imposition, celle qu'on ne regarde pas beaucoup, où peut être indiqué le taux moyen et la TMI, on retrouve aussi des plafonds. Aujourd'hui, on a en plus la possibilité d'utiliser des plafonds des années antérieures qui n'ont pas été déduits. Donc, les trois dernières années, et dans quelques temps, ça va passer à cinq années. Donc, c'est plutôt intéressant d'utiliser ces plafonds. Et avec la case de mutualisation entre conjoints, dont on a évoqué tout à l'heure, voilà, on peut optimiser ce montant.
On voit des clients qui passent à côté de plusieurs milliers d'euros d'économies fiscales chaque année, uniquement pour ces deux raisons.
Mais oui, mais heureusement, nous sommes vigilants pour eux. Dernier point de vigilance de cette rubrique, le changement de situation familiale. Mariage, PACS, divorce, naissance, décès, enfants qui quittent le foyer. Chaque changement a un impact direct sur votre nombre de parts, donc sur votre quotient familial. Et si ça a un impact sur votre quotient familial, ça a un impact sur votre impôt. Assurez-vous de votre situation, que votre situation est parfaitement à jour.
Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un gestionnaire de patrimoine qui pourra vous aider et confirmer que vous avez bien rempli l'avis d'imposition. Valérie, maintenant qu'on a posé des bases, est-ce qu'on peut passer en revue les erreurs concrètes que tu rencontres le plus souvent chez les clients ?
Avec plaisir. Première erreur, et elle peut coûter très cher, oublier de déclarer un compte bancaire détenu à l'étranger. C'est une obligation légale. Article 1649A du Code général des impôts, pour être précis. Même si le compte est inactif ou vide, l'amende en cas d'oubli peut atteindre 1500 euros par compte non déclaré, voire 10 000 euros si le compte est dans un pays non coopératif. Beaucoup de gens pensent que ça ne les concerne pas, mais un vieux compte ouvert lors d'une expatriation, un compte hérité d'un parent, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit.
La deuxième erreur très fréquente, c'est qu'on déclare mal les revenus locatifs.
Tout à fait, Philippe. Louer un bien vide et louer un bien meublé ce ne sont pas les mêmes règles fiscales du tout. Pour la location vide, on utilise le régime du microfoncier avec un abattement de 30% ou le régime réel. Pour la location meublée, on relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux. En France, on a des régimes ou des rubriques. Hein, on est dans un impôt qu'on dit catégoriel. Donc c'est très important de mettre les bonnes choses dans la bonne catégorie. Et le micro-BIC, lui, a 50% d'abattement. Ou le régime réel, sous le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Beaucoup de propriétaires sont sur le mauvais régime et payent trop d'impôts. En passant au régime réel, on peut déduire les charges, les travaux, les intérêts d'emprunt, voire amortir le bien et ramener l'impôt à zéro, ou presque.
Une autre erreur que l'on constate souvent, c'est l'oubli dans le calcul des plus-values et sur la cession des valeurs.
Oui, quand vous vendez des actions, des parts de SCPI, des parts de fonds, hors PEA ou assurance vie, les gains sont imposables. Votre établissement financier vous remet chaque année un imprimé fiscal unique, dit IFU. Vérifiez bien les lignes et assurez-vous que tout est bien repris dans votre déclaration. Il y a des cas où les IFU ne sont pas transmis. Par exemple, sur des titres d'entreprise, quand on travaille dans une société qui vous donne des titres gratuits ou des actions de performance. Et on fait souvent des erreurs sur ce type de fiscalité.
Il existe aussi parfois des erreurs qui sont faites sur le crédit d'impôt, notamment pour les personnes emploi à domicile. Pouvez-vous nous en dire plus ?
50% des sommes versées à un emploi à domicile, que ce soit pour faire le ménage, le jardinage, les aides aux devoirs, la garde d'enfants, ouvrent droit à un crédit d'impôt. Par exemple, si vous payez 2000 euros dans l'année pour une aide à domicile, c'est 1000 euros que l'État vous rend. Et contrairement à une réduction d'impôt, le crédit d'impôt vous est remboursé, même si vous ne payez pas d'impôt. C'est important. D'ailleurs, c'est précisément la différence qu'il faut bien comprendre.
C'est-à-dire, Valérie, vous pouvez nous expliquer ?
Une réduction d'impôt diminue votre impôt. Mais si votre impôt est nul, elle disparaît. Vous l'avez perdu. Vous ne la récupérez pas. Alors qu'un crédit d'impôt, lui, peut vous être remboursé, même si vous ne payez pas d'impôt. Pour les mêmes dépenses, le traitement peut donc être radicalement différent selon votre situation fiscale. C'est une distinction fondamentale que même beaucoup de contribuables avertis confondent.
Et Valérie, pour terminer cette rubrique dans les différentes erreurs qu'on a pu constater, est-ce qu'il y a un message important que vous pourriez passer ?
Oui, tout ce qu'on vient d'évoquer. Le quotient familial, la tranche marginale d'imposition, le plan d'épargne retraite, la mutualisation des plafonds, les régimes locatifs, c'est la base. Mais il y a un niveau au-dessus, c'est l'optimisation fiscale. Structurer vraiment son patrimoine pour payer légalement moins d'impôts, choisir des bonnes enveloppes, les bons timings et les bons outils, ça sera le sujet d'un prochain épisode que nous consacrerons prochainement sur Parlons Patrimoine.
Ouf, après tous ces éléments, on va faire une pause musicale pour qu'on puisse revenir sur d'autres thèmes. On parle d'un titre de changement de politique, ce qui peut parfois avoir des conséquences sur vos impôts.
On se retrouve dans quelques instants pour notre rubrique signature, le conseil du mois.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste.
Notre rubrique signature, le conseil du mois. Un conseil concret, actionnable, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Philippe, vous nous donnez le conseil du mois ?
Avec plaisir. Notre conseil du mois pour cette première émission est très simple. Et je pense que nombre d'entre nous ne savent pas réellement ce que c'est. Avant de valider votre déclaration, n'hésitez pas à comparer votre revenu fiscal de référence de l'année N avec celui de l'année précédente.
Et ce revenu fiscal de référence, on le trouve où ?
Sur l'avis d'imposition. C'est écrit noir sur blanc. Si le revenu fiscal de référence a significativement évolué, à la hausse ou à la baisse, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette variation déclenche ou vous fait perdre des avantages ? Une bourse, par exemple, pour vos enfants ? Des aides sociales, l'accès à certains dispositifs d'épargne, votre trop de prélèvement à la source pour l'année suivante. Telles sont les modifications qui peuvent arriver à cause des évolutions de votre revenu fiscal de référence.
Vous avez raison, Philippe. D'autant plus que depuis qu'on a le prélèvement à la source, en fait, c'est un peu difficile de s'y retrouver dans les impôts. On ne sait plus quel est le montant de notre impôt sur le revenu, quel est le revenu fiscal de référence. Et de prendre le temps de bien le comparer et de vérifier l'évolution d'une année sur l'autre, ça nous permet de voir si on a gagné plus d'argent ou si on en a perdu et quelles peuvent être les conséquences.
Effectivement, cette opération prend 5 minutes, mais prenez le temps de le faire. Ou si vous n'avez pas le temps de le faire, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre expert comptable ou Pierre, par un gestionnaire de patrimoine.
Voilà, c'était notre petit conseil du mois. Et pour finir cette émission, on va illustrer tout ce qu'on vient de dire avec un cas concret. Philippe, vous voulez bien nous présenter notre auditeur imaginaire du soir pour cette première émission. On espère que la prochaine fois, on aura des messages et des cas concrets à vous présenter.
Bien sûr. Eh bien là, il s'agit de Martin, il a 47 ans, cadre dans une entreprise de service. Il est marié, deux enfants, dont un qui vient de partir étudier à Toulouse. Il loue un petit appartement, un studio meublé. Il a fait un don à une association caritative en fin d'année. Et il y a 2 ans, il a ouvert un plan épargne retraite, ou PER, que vous avez peut-être entendu parler, lors d'une réunion de groupe dans son entreprise. Mais il n'a jamais vraiment compris comment cela fonctionne. Qu'est-ce qu'on lui dit alors, Valérie ?
Premier point immédiat pour Martin, son fils qui quitte le foyer fiscal. Si son fils était encore compté à charge jusqu'à l'année dernière, Martin a la possibilité soit de lui déduire une pension alimentaire et auquel cas il perd sa demi-part fiscale, soit de le maintenir rattaché au domicile. Il a la possibilité jusqu'aux 25 ans de son fils, s'il est étudiant, de le rattacher. Et là, ça peut vraiment avoir des conséquences. C'est toujours bien, les années où les enfants partent en études supérieures, de bien faire la simulation entre avec la demi-part en plus et sans. Et du coup, si on est sans, on ajoute une pension alimentaire. Ça peut représenter un écart significatif. Il faut donc simuler pour optimiser. Si son fils est détaché, il faut l'intégrer dans sa déclaration et qu'il anticipe l'impact sur son taux de prélèvement à la source pour l'année suivante.
Deuxième élément où il faut être vigilant, le studio loué à son fils. Attention, on a bien dit que c'était une location meublée. C'est le régime loueur meublé non professionnel, aussi appelé LMNP. Et selon les montants des loyers, il a le choix entre le micro-BIC avec un abattement forfaitaire de 50% ou le régime réel. Si le studio est encore financé par un emprunt, le Le régime réel peut être très intéressant pour déduire des intérêts. Ou bien aussi, si on est sur du régime réel, si des gros travaux de copropriété sont prévus, ça peut être intéressant.
En effet. Troisième point, le don à l'association. Il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation. La réduction d'impôt est de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour un don de 200 euros, par exemple, c'est 132 euros de réduction d'impôt. Souvent, les clients me demandent quel est le plus efficace pour réduire son impôt sur le revenu. Eh bien, c'est le don à des associations. Mais ce n'est pas toujours ce qu'ils attendent comme réponse.
L'autre possibilité, c'est de verser de l'argent sur les plans épargne-retraite. C'est ce qu'il y a probablement de plus intéressant pour Martin, s'il n'a pas utilisé ses plafonds d'épargne-retraite les dernières années. Il peut avoir un plafond cumulé très important. Et donc, s'il verse une somme sur son plan épargne-retraite, ces versements seront déductibles de son revenu imposable. En tant que cadre, s'il est dans une tranche à 30 ou à 41% d'économie, pardon, ou à 41%, l'économie fiscale peut alors être substantielle.
Comme exemple, si Martin a versé 10 000 euros sur un PER, qu'il avait 10 000 euros de plafond disponible et que sa TMI était à 30%, il aura 3 000 euros de réduction d'impôt. C'est quand même significatif. En résumé, pour Martin, une déclaration faite à la va-vite lui coûterait probablement plus cher, peut-être plusieurs centaines ou milliers d'euros. Avec un accompagnement et une déclaration bien préparée, la situation est totalement différente.
Et c'est là que notre plus-value peut intervenir rapidement. Et bien sûr, aujourd'hui on est en 2026, on ne peut rien faire sur 2025. Mais si vous souhaitez que l'on intervienne dans les meilleurs délais au titre de l'impôt 2026, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir.
Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Parlons Patrimoine. On espère sincèrement que ces éclairages vous ont été utiles et que vous abordez votre prochaine déclaration avec un peu de sérénité.
Si vous avez des questions, pardon, des situations particulières dont vous souhaitez qu'on en parle dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont disponibles sur le site de la radio ou par email.
Donc, on se retrouve dans un prochain épisode de Parlons Patrimoine. Et pour être logique avec ce premier épisode, on va parler d'optimisation fiscale et on essaiera d'être vraiment sur des cas concrets de stratégie patrimoniale.
D'ici là, prenez soin de votre patrimoine et de vous. À très bientôt.